RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités que vous commencez peut-être à connaître. J'ai à mes côtés Pierre Clément, directeur de Nexvia, Julien Licheron, chercheur du Liser, et Yann Gadea, responsable courtage chez Atome Finance. Comment ça va ?
En pleine forme, Gaël, merci.
Très bien.
Très bien, merci beaucoup Gaël.
Super, alors il s'en est passé des choses ces derniers mois, c'est pourquoi au lieu de se lancer d'emblée dans une analyse statistique, ce qu'on fait généralement ensemble, j'aimerais évoquer la situation générale du marché de l'immobilier. J'ai reçu récemment le ministre du Logement, ainsi que le directeur de la Chambre des métiers. Ils étaient d'accord pour dire que la situation restait délicate sur le marché du neuf. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Yann ?
Oui, tout à fait. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les transactions qui sont signées sur cette année 2025, on a à peu près 90% ou 85% d'existants et seulement 15 à 20% de VFA. Et souvent des VFA qui sont déjà quasiment finis, construits. Les gens, pour l'instant, ont un peu du mal à se lancer sur des projets à 24 mois, 36 mois, mais ça commence à changer, puisqu'on voit quand même des gens qui arrivent avec des nouveaux projets, même sur des appartements résidentiels avec des gros projets, sur des projets où ils vont être livrés dans 2 ans, 2 ans et demi. Donc y a déjà un mindset qui est en train d'évoluer, en fait.
Et avant crise, pour se faire une idée, là vous parliez de... d'une proportion, elle était bien différente.
Oui, tout à fait, on était plutôt à du 70-30 en fait. Mm-hmm. Donc il y avait quand même une grosse part de neuf, surtout que le gros avantage qu'il y avait, c'était avec un marché qui était aussi très inflationniste sur le prix de l'immobilier. Il y avait certaines personnes qui achetaient des projets VFA, qui les revendaient pendant la construction parce qu'ils faisaient déjà une plus-value, etc. Mm-hmm. Donc il y avait vraiment une embellie qui était aussi soutenue par la TVA 5, avec la TVA 3%. Avec le rabais qui est toujours là, mais forcément comme les prix dans l'ancien et dans le neuf n'ont pas les mêmes possibilités de négociation, les gens se portent un peu plus vers l'existant où ils savent qu'il y a encore des marges de négociation, alors que dans le neuf, le promoteur a quasiment des prix fixes, même s'ils font des rabais aujourd'hui sur certains promoteurs. Mais en tout cas, c'est vrai que la marge de négociation est un petit peu plus facile sur l'existant.
Mmh. Et puis, il y a l'incertitude liée à toutes les faillites qui ont lieu ces 3 dernières années.
Tout à fait aussi.
Comment est-ce que la situation a évolué depuis la fin du paquet logement ? Parce qu'on s'y attendait après le paquet logement. Le paquet logement, il y a eu une accélération, en particulier sur le marché de l'existant. Sur le neuf, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas dans les mêmes proportions. Comment est-ce qu'elle a évolué, cette situation, depuis que... les aides, c'est fini.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu un vrai boost sur le premier semestre 2025 avec la prolongation qui a été faite pour signer les actes jusqu'au 30 septembre. Bah, ça a permis à beaucoup de gens de signer des compromis juste avant le 30 juin, les enregistrer et de bénéficier encore du Bellation Act réduit et puis surtout des 3,5% sur les droits d'enregistrement. Donc ça, c'était vraiment... ça a permis à vraiment beaucoup d'acquéreurs de bénéficier de ces aides-là. Mais nous, on a vu clairement qu'à partir du 1er juillet, les transactions ont continué. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes primo-accédant, vous avez toujours le droit à 40 000 euros par personne de crédit d'impôt. Donc ça permet quand même à des primo-accédants de ne pas avoir de droit d'enregistrement quasiment jusqu'à 1 050 000 euros. Donc c'est quand même déjà très bénéfique. Et il y a aussi dans les mesures fiscales, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a aussi un gros avantage fiscal sur les 2 années de première année de livraison du bien plus année N+1, vous pouvez déduire tous les intérêts. Mmh. Donc sans plafond, même si c'est votre résidence principale. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très très intéressant pour les potentiels acquéreurs. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Nous, on insiste beaucoup justement pour permettre aux gens de se projeter avec des retours d'impôts qui peuvent être très intéressants pour eux. Mmh. Et ensuite, de pouvoir renégocier dans 2 ans, 3 ans leur prêt si les taux seront plus favorables, bien sûr.
Oui, vous faites bien de le rappeler. Il y a une partie des aides qui ont été consolidées dans le temps, comme le Bellation Act. Et donc, il y a effectivement ce cadeau fiscal sur les 2 premières années où on peut tout déduire. Donc,
c'est important de le rappeler parce que quand on dit que le paquet fiscal s'est arrêté, c'est pas tout à fait vrai. Hein, puisque cette partie-là est quand même assez importante. Et nous, on voit chez Nexvia que ça porte le marché, ça continue de porter le marché existant. Et les chiffres qu'on a, nous, en agence, et les chiffres qu'on a aussi des transactions de signature de compromis, je dis bien, jusqu'au 30 septembre 2025, donc je regarde les chiffres au troisième trimestre, montrent que les transactions sur l'existant restent à un niveau similaire à ce qu'on avait sur les 6 premiers mois de l'année. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de, il y a beaucoup de volume et que donc les gens continuent à acheter en tout cas de l'existant. Donc c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas du tout eu un l'arrêt après le 30 juin. On l'a stabilisé, ça, on a deux éléments que je peux vous donner, c'est que post 30 juin, on a un volume qui est toujours aussi stable et aussi des prix qui sont stables.
Sur l'existant.
Sur l'existant. Mm-hmm. Je dis bien sur l'existant. Ouais, mais par contre, je peux aussi vous dire, alors, sur le sur plan, on n'en fait pas, mais par contre, j'ai le retour via les transactions sur les partenaires bancaires que nous avons. Et là, la situation reste inchangée. D'ailleurs, c'est pas pire, mais c'est pas mieux.
Ouais, vous avez anticipé ma prochaine question. Je voulais avoir un constat sur le marché de l'existant. Donc c'est bien, c'est fait. Alors on revient aux chiffres, hein, Julien. Mais avant d'aller dans le détail, on va rappeler quand même, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas le gap qu'il y a entre l'Observatoire de l'Habitat et Atome, et simplement aussi le simple fait que ça se base pas sur les mêmes chiffres. Donc est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez éventuellement à nouveau expliquer en bref pourquoi il n'y a pas le même rythme de publication et on parle pas du même trimestre quand on parle de Atome et d'Observatoire de l'Habitat?
Oui, parce qu'évidemment on est sur deux sources de données qui sont totalement différentes. On est d'un côté sur des annonces immobilières avec les chiffres qui sont publiés par Atome sur base du coup d'annonces de vente de biens. Donc on est vraiment au plus près du marché, c'est vraiment l'actualité, mais évidemment c'est pas les prix finaux de transaction et c'est un indicateur avancé des futurs prix du logement. L'Observatoire de l'Habitat publie avec un peu plus de retard des prix qui sont eux basés sur les actes notariés et donc qui sont basés sur des vrais prix de transaction avec du coup un décalage d'environ 3 mois par rapport au moment où les actes sont passés. Donc ça, c'est vrai que c'est un décalage qui est quand même important. Et qui explique que les chiffres et les tendances ne sont pas nécessairement les mêmes parce qu'on ne parle pas du tout des mêmes sources de données.
Ouais, et donc c'est important de le souligner parce que nous, ça nous revient très souvent. On vient de publier les statistiques de l'Observatoire de l'Habitat du deuxième trimestre par exemple, et Atome, juste dans la foulée, publie ceux du troisième trimestre. Et forcément, parfois, on ne lit pas deuxième, troisième trimestre, on ne fait pas forcément toujours la différence, et c'est important à savoir, ce n'est pas non seulement pas le même trimestre, mais c'est pas les mêmes sources de données.
Mais c'est exactement ça. Il y a certes un décalage temporel, mais surtout la vraie donnée, c'est celle de l'Observatoire de l'Habitat et des transactions. C'est aussi celle que moi je peux avoir sur les compromis, c'est les données de transactions. Les prix d'annonce, c'est des prix d'annonce.
C'est un indicateur.
C'est un indicateur. Mais on peut pas se baser sur le prix d'annonce pour dire l'immobilier augmente, l'immobilier baisse. Je peux vous dire que quand on était en 2022 ou 2023, les prix d'annonce étaient inchangés. Mais par contre, on a une correction de 15% dans les prix de l'immobilier, en réalité, dans l'existant en tout cas. Ouais. Donc c'est pas.
Mais en particulier depuis 2022, parce qu'il faut dire qu'avant 2022, les prix annoncés généralement bougeaient pas forcément parce qu'il y avait pas de marge de négociation sur le neuf, par exemple.
En fait, on était sur un marché luxembourgeois avant 2022, avant crise, sur un marché où les gens, par rapport au prix des annonces, allaient faire même des offres plus élevées.
Ouais.
Ils surenchérissaient. Ouais. Donc, c'est-à-dire que comme il y avait une telle demande et très peu d'offres, les gens surenchérissaient. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est... Alors, c'est encore... le marché 2025 n'est pas le marché 2024 ni le marché 2023. Où 2023-2024, il y avait vraiment des fortes négociations par rapport au prix annoncé et ce qui était vraiment transactionné. Aujourd'hui, et comme les prix se sont quand même stabilisés, il y a quand même beaucoup moins d'écart entre les prix qui sont annoncés. Et c'est un peu le job de l'agent immobilier aujourd'hui d'essayer d'afficher au bon prix. Et après, il y a une marge de négociation qui est beaucoup plus réduite aujourd'hui. On n'est plus sur des négociations à 10-15%. On va être peut-être, ils vont négocier entre 10 et 15 000, 20 000 euros sur le prix du bien. Mais si on rapporte un prix à 700, 800 000 euros, c'est pas non plus impactant en fait. Donc à partir de... Il se peut qu'il y ait des fortes négociations par rapport au prix affiché sur des biens un peu plus atypiques. C'est-à-dire un bien avec beaucoup de travaux, un bien qu'ils n'arrivent pas à vendre, où là, il va peut-être avoir vraiment une vraie décote. Mais aujourd'hui, de ce que je peux voir, et nous, ce qu'on voit chez Atome Finance, parce qu'on reçoit avec justement des compromis qui sont fermes, il y a très peu d'écart entre la signature du compromis et le prix affiché. Surtout si l'agent immobilier met tout de suite au bon prix, souvent on retombe un peu dans le marché qu'on a pu rencontrer il y a 3-4 ans, où les gens commencent à faire des fois des offres un peu plus élevées. Mm-hmm. Tout en sachant qu'il y aura toujours un garde-fou, puisque aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transaction peut se faire via le compromis. Et après, il y a bien sûr un comité bancaire, si les gens passent par un prêt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques surveillent beaucoup, énormément, les prix des biens. Donc, c'est-à-dire que chaque banque aujourd'hui a un outil de valorisation qui va aller checker, est-ce que j'ai signé un compromis à Luxembourg-Neudorf à 800 000 euros, est-ce que ça vaut bien au moins 800 000 euros ? Donc, y a quand même en plus un garde-fou, et je pense que tous ces outils des banques vont se baser sur justement l'Observatoire de l'Habitat et croisent des données pour être sûr que l'emprunteur n'achète pas trop cher et qu'il ne soit pas surexposé au risque.
Le fait que vous insistez sur ce garde-fou, pour moi, ça sous-entend un petit peu qu'il n'a pas toujours été là, ce garde-fou, ou du moins, moins.
Je pense que ce que demandent les directives européennes aux banques aujourd'hui, c'est des mesures qui ont été mises en place auprès des banques, je pense, depuis 2-3 ans. Donc, ils travaillent dessus. Et après, il y a aussi l'organisme de contrôle, la CCSF, qui va en plus contrôler les outils. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque banque est obligée de montrer patte blanche sur son outil de valorisation. Et donc, c'est vrai que ça permet aussi de limiter un petit peu l'inflation qu'on a pu avoir dans les années 2019, 2020, 2021. En 2021, ça fait plus 15%, je pense, le prix de l'immobilier à Luxembourg. Et c'est vrai qu'avec ces outils-là, comme ils se basent sur l'Observatoire de l'Habitat, donc sur les transactions, donc forcément, il y a un rythme qui est quand même plus faible d'accélération. Mmh. Mais après, si vous achetez cash ou vous mettez 300 000 euros sur la table ou 400 000 euros et que vous achetez trop cher, ça passera quand même. Hein. Mmh. Donc, ça va être plutôt sur des financements qui vont être sur limite au niveau des LTV, en fait.
Mmh. Pierre, sur l'existant, on négocie encore beaucoup actuellement ?
On négocie toujours. Je veux relativiser ce que dit Anne. Ça nous arrive une fois ou deux là, dans les dernières semaines, où on a peut-être eu une vente au-delà du prix d'annonce, mais ça reste quand même plus rare que les années 2021 ou 2022, où là c'était quelque chose qui se faisait, qui vous arrivait beaucoup plus régulièrement. Donc oui, on négocie un peu. Là où je veux rejoindre Yann, le décalage entre prix d'annonce et prix de transaction va être beaucoup moins important sur les appartements, par exemple à Luxembourg-Ville, où là, il y a une connaissance des prix qui est claire et le marché est assez important et la liquidité est forte. Néanmoins, dès qu'on est hors ville et notamment sur des maisons, là, il peut y avoir quand même des décalages très importants entre les prix d'annonce et les prix de transaction. Et c'est ce qu'on voit aussi chez nous. Eh ben, c'est plus difficile, évidemment, d'évaluer une maison, encore plus quand cette maison elle a des travaux qui peuvent être assez importants. Et là, on peut avoir des négociations fortes. Et vu les prix des biens, il y a des fois, c'est en effet entre le prix de début et le prix d'atterrissage, on peut être à plus de 100 000 euros. Ça, c'est la vérité. Donc, c'est là où je pense que la lecture néanmoins des prix de transactions qui proviennent de l'Observatoire de l'Habitat reste une lecture réelle du marché.
Bah, vous faites bien de le dire, parce que je voulais revenir donc sur les tendances qui ont été soulignées dans votre dernier rapport sur le deuxième trimestre 2025. Alors, on rappelle que le paquet logement était encore en vigueur, il faut prendre ça en compte quand on parle de ces chiffres. Donc il y a une hausse de l'activité très importante par rapport à l'année précédente, une augmentation des prix et une baisse des loyers. Vous nous en parlez un petit peu, Julien ?
Oui, donc je partage tout à fait l'idée que les prix annoncés sont moins fidèles, évidemment, au véritable prix de transaction, ça ne fait aucun doute. Et ça me paraît évident, ça vient de deux choses. D'abord, au niveau individuel, il est clair qu'il y a une marge de négociation entre prix annoncé et prix enregistré. Mais il y a aussi un problème de fond qui est le fait que la proportion d'annonces qui est mal pricée, elle fluctue aussi dans le temps. Il y a des annonces qui évidemment ne se vendront jamais parce que le prix n'est pas bien fixé. Et cette part, elle est fluctuante dans l'espace et dans le temps, ce qui fait qu'évidemment, il y a une marge qui est fluctuante au niveau local et dans le temps entre prix annoncé et prix réel de transaction. Donc nous, on recommande d'utiliser plutôt les prix enregistrés, les prix de transaction pour tout ce qui est niveau de prix. En revanche, c'est vrai que les prix annoncés sont utiles en tant qu'indicateur avancé de ce que va être peut-être l'activité et les prix dans le futur. Donc nous aussi, on fait appel à ces données comme ça, comme un indicateur avancé. Alors pour revenir à votre question de départ, donc ce qu'on observe effectivement, c'est d'abord une très forte hausse de l'activité au deuxième trimestre qui s'explique en partie par l'expiration des mesures fiscales, mais qui ne s'explique pas uniquement par l'expiration des mesures fiscales. On voyait quand même depuis le début de l'année 2024 une activité qui augmentait assez nettement sur l'existant. Ça s'est confirmé et renforcé au deuxième trimestre. Et ce qui était marquant, et c'est le chiffre qui a été souvent retenu, c'est qu'on a eu 1575 ventes au deuxième trimestre pour ce qui était des appartements existants. Et ça correspond au record, au plus grand nombre d'appartements anciens qu'on ait pu voir vendus sur un seul trimestre depuis l'origine du fichier, c'est-à-dire depuis 2007. Mmh. Donc vraiment un niveau d'activité record qui a été en partie boosté par les mesures fiscales, mais pas exclusivement. Le même constat peu ou prou peut être dressé sur les maisons anciennes où on a eu aussi un niveau d'activité qui était nettement supérieur à ce qu'on avait un deuxième trimestre normal. Mmh. Et comme vous l'avez tous bien dit, sur l'existant c'est très très clair. Sur le neuf en revanche, qui était pourtant vraiment ciblé par les mesures fiscales, oui, l'augmentation de l'activité était beaucoup moins nette. Si on compare par rapport au trimestre précédent, elle était très nette, mais elle est malgré tout encore très nettement inférieure à ce qu'on pouvait avoir les années d'avant crise. Donc le 9 est loin d'avoir retrouvé le dynamisme qu'il avait avant la crise. Et alors, pour les prix, moi je pense que le deuxième trimestre ne doit pas être surinterprété, parce que probablement il y a eu des acheteurs qui ont décidé d'accepter un prix qu'ils n'auraient peut-être pas accepté s'ils n'avaient pas été un peu sous pression de la deadline. Et que du coup, on a eu une petite augmentation, ou même une augmentation assez nette sur les prix, de l'ordre de 4,5% avec l'indice général, mais jusqu'à 7,1% sur 12 mois pour les maisons anciennes. Donc une augmentation assez nette, qui est peut-être un peu mécanique, qui est liée au fait que voilà, peut-être certains acheteurs ont décidé de ne pas aller jusqu'au bout de la négociation parce qu'ils étaient pressés par le temps. Et que du coup, on a cette augmentation mécanique qu'on avait déjà vue, en fait, lorsqu'il y avait précédemment, dans le temps, l'expiration de mesures fiscales, souvent au 31 décembre, où on voyait une petite remontée des prix. Mm-hmm. Donc je ne la surinterpréterai pas, et je pense qu'il faut vraiment regarder les chiffres du trimestre prochain pour se faire une idée des évolutions de prix. Je ne serais pas surpris qu'on soit à nouveau sur une tendance plutôt stabilité, mm-hmm, pour ce qui est des prix. Et alors, le point intéressant, c'est le dernier point que vous soulignez, c'est le fait qu'on a une baisse des loyers. Depuis maintenant. Bon, alors, on a des fluctuations saisonnières assez nettes sur le loyer, mais néanmoins, là, sur les 12 derniers mois, on est à moins 2,2% pour les appartements. Donc une baisse quand même assez nette des loyers, qui s'explique sans doute en partie par juste un shift de la demande depuis la location, qui avait été très très largement favorisée pendant la crise, jusqu'à l'accession à la propriété, qui du coup a été boostée au deuxième trimestre. Donc à mon avis, c'est vraiment la demande qui joue sur ces évolutions contrastées des prix et des loyers.
Ok. Alors Yann, vous n'êtes pas venu nous parler des chiffres atomes du T3, mais plutôt de l'évolution de l'activité du côté des crédits.
Tout à fait.
Alors comment ça se passe actuellement ? Qu'est-ce qui est en vogue ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce que vous voyez passer sur votre bureau ?
Alors, je rejoins tout à fait Julien et Pierre. Donc c'est vraiment nous, on va beaucoup avoir de l'existant. On a aussi une vague de personnes qui ont acheté en 2023 et qui, avec des taux très très élevés à l'époque, puisqu'on avoisinait quasiment en taux fixe du 4,8, du 4,9, et même sur les taux court terme, on était à des niveaux à 4%, qui reviennent nous voir en fait pour renégocier leurs prêts. Donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a toujours pas des taux très très entre guillemets sexy sur du long terme, parce qu'on a eu des fluctuations dues aux conditions de marché, dues aux différentes tensions géopolitiques, avec des remontées de taux. Donc on est remonté à quasiment à 3,7, 3,8 en fixe long terme pour des très bons dossiers. Mais par contre, sur du court terme ou du variable, on a une vraie belle baisse, puisqu'en fait aujourd'hui le variable, on arrive assez aisément à tomber en dessous de 3%. Et jusqu'à 5 ans, 3-4 ans, on va être en dessous de 3%. À partir de 5 ans, on va être peut-être à du 3,10, ce niveau de taux-là. Et jusqu'à 10 ans, on va être à du 3,40. Donc en fait, en gros, on va vraiment combiner le montage du prêt selon déjà la sensibilité au risque au client, puisqu'il y a des gens qui vont vouloir faire quand même que du taux fixe parce qu'ils sont trop anxieux par rapport aux différentes situations
de marché. On peut les comprendre avec les trois dernières années.
Ouais, tout à fait, on peut les comprendre. Par contre, c'est vrai que sur des profils avec assez large au niveau de leur endettement et de leur restant à vivre, ils peuvent jouer le marché. Et c'est vrai que c'est assez rare pour le souligner. On a des gens qui choisissent de partir complètement en variable et des gens plutôt d'origine. Alors, c'est vrai qu'à Luxembourg, c'était un taux que tout le monde utilisait. Mais par exemple, les gens d'origine latine n'aiment pas trop ce système-là. Et des gens d'origine latine, aujourd'hui, partent sur du variable en se disant, bah voilà, je joue le marché et peut-être que dans un an ou deux, je vais restructurer mon prêt. Donc, c'est assez rare pour le souligner. Moi, quand j'ai commencé l'activité en 2012, on faisait beaucoup de variables parce qu'on avait en fait du variable à 2% et du taux fixe à 4%. Et bah, les courbes de taux ont redescendu, donc les gens ils ont restructuré plus tard. Mais là, en fait, on retombe un peu dans ce marché-là où c'est vrai qu'on a un écart de taux sur de quasiment 0,8, 0,9 entre du variable et du fixe. Donc les gens se disent, bah voilà, je prends quand même peu de risque que mon taux variable remonte à du 4, voire du 4,5. Donc, donc on est un peu dans cette situation-là. Et c'est vrai que, bon, on préfère le réserver. Et c'est vrai que les banques aussi utilisent des garde-fous, puisqu'en fait, on va calculer tous les endettements et restants à vivre avec des taux à 5%, 5,2. On fait un stress test à plus de pourcents. Mais c'est vrai que ça peut être des solutions qui permettent à certains profils de gagner sur leur coût d'intérêt et de potentiellement plus tard pouvoir renégocier.
Alors Pierre, vous travaillez principalement sur le marché de l'existant, on l'a déjà dit, un marché qui a connu une forte reprise suite à l'annonce du paquet logement, et on a bien compris qu'il n'y a pas que le paquet logement qui a joué. Comment ça se passe depuis? Vous avez un petit peu évoqué le fait que depuis la fin officielle du paquet logement, ça continue, l'activité continue.
Oui, l'activité continue pour une bonne raison, c'est que les prix se sont ajustés dans l'existant, 15 à 20%. Et donc, c'est l'élément complémentaire qui a permis la reprise sur le marché, complémentaire aux aides. Et donc, depuis mi-24, on a en effet un volume de transactions sur l'existant qui est bien plus élevé. Ma prévision personnelle d'ailleurs, c'est qu'on va probablement avoir plus de 5000 ventes d'appartements existants probablement sur l'année 2025, qui marquera aussi un record.
Le record étant auparavant
4500.
Oui, c'est ça, 4500.
Voilà. Environ. Et évidemment, cet intérêt pour l'existant est aussi lié à un élément, c'est que l'alternative de l'achat sur plan est beaucoup moins intéressante aujourd'hui qu'elle ne l'a été dans les années 2020 et avant. Le décalage de prix reste quand même important par rapport à des biens récents qu'on peut acheter dans l'existant. Moi, j'ai fait une comparaison. Par exemple, en regardant les transactions qu'il y a eu sur toute l'année 2025, dont j'ai les données, sur de la VEFA, et en comparant avec des biens qui datent de 2020, donc des biens qui sont déjà en classe performance énergétique A, qu'on peut considérer comme fini. L'écart, il est pratiquement inexistant sur la ville de Luxembourg. Mais quand je prends les données hors ville, il y a toujours un écart de 10% entre un bien existant déjà disponible, avec une cuisine, avec déjà toutes les options, en tout cas la finition qu'a un bien fini, avec un bien qu'on achète sur plan, sur papier. Donc cet écart de 10%, aujourd'hui, il est trop important pour que les acheteurs, qui sont des propriétaires occupants aujourd'hui, se réintéressent en réalité au bien en VFA.
Alors, on va peut-être profiter de cette intervention pour rappeler que c'est un vrai, véritable problème pour le Luxembourg, qu'on construise peu, parce qu'on continue à avoir entre 9 et 10 000 personnes qui arrivent toutes les années, que logiquement la demande va continuer à être élevée, et que c'est là où on revient sur ce que monsieur le ministre disait dans l'émission, c'est que s'il y a relance, il y avait, la demande sera forcément élevé, et on pourrait alors avec la limite de ce que peuvent faire les prix, bien évidemment, est-ce que les gens peuvent injecter dans un investissement immobilier, mais on pourrait revoir des explosions de prix. En tout cas, c'est ce qu'ils craignent.
C'est vrai qu'il y a un élément qui est important, c'est ce qu'a dit Pierre sur le fait que pour l'instant, la demande en VFA, elle est largement portée par les propriétaires occupants. Et en fait, ce qui manque dans l'équation, c'est vraiment les investisseurs locatifs qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes d'investissement que des propriétaires occupants. Actuellement, il est clair que sur la VFA, on a une très grande proportion des ventes qui sont faites par des ou qui sont faites à des propriétaires occupants qui, eux, sont soumis à des contraintes qui sont telles qu'elles sont hein, par rapport au budget et au niveau des taux d'intérêt et qui sont aussi conscients du fait qu'il y a cet écart quand même important avec l'achat d'un bien existant. Et qui ne sont pas nécessairement prêts à se positionner sur ce marché. Mais du coup, c'est vrai que si demain, pour plein de raisons, notamment parce que les investissements alternatifs deviennent pas forcément plus intéressants que le résidentiel, et qu'on a à nouveau un afflux des investisseurs locatifs vers le résidentiel, alors là, oui, on aura une pression forte sur la demande, et du coup, un vrai risque de voir le marché repartir à la hausse parce que la demande sera face à une offre qui est pour l'instant très contrainte et qui semble pas vouloir redémarrer dans les deux prochaines années.
Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce que je pense qu'en 2022, enfin plutôt 2023, on s'est rendu compte qu'il y avait un plafond quand même. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la majorité des résidents ne pouvaient plus acheter et où ça était devenu inintéressant d'acheter.
C'est ce qu'on disait lors des premières bulles IMO pendant la crise en réalité. C'est que c'est ce choc de taux qui était énorme, il a permis de mettre en lumière justement cette limite qui semblait pas tangible. Mais là qu'on a vu, c'est que lorsqu'on a un gros choc qui fait perdre en gros 20 à 25% de capacité d'achat, alors on n'a plus de demande du côté des propriétaires occupants. Okay. Et puis en même temps, évidemment, la hausse de taux fait que d'autres placements deviennent rentables et les investisseurs locatifs disparaissent aussi du marché. Et donc oui, effectivement, ce qu'on a vu, c'est qu'un choc sur les taux ou une véritable très très grosse flambée des prix à nouveau, ça exclurait du marché une grande partie de la demande. Avec le risque qu'à terme, on ait un rationnement de la demande et qu'on ait un rétrécissement finalement des personnes qui puissent accéder à la propriété, augmentation des prix, réduction de la demande, on a un rationnement sur le marché du logement.
Enfin, ce rationnement, je suis désolé, je pense qu'il existe déjà.
Oui, bien sûr, mais il sera encore plus fort.
Il sera encore plus fort, voilà. Mais le rationnement est là. Tous les travailleurs du Luxembourg ne peuvent pas acheter un appartement au prix moyen du mètre carré. Ouais. Donc en fait, le rationnement de l'offre fait que les prix sont aussi élevés. Donc moi je veux quand même un peu... On a vu que la hausse des taux a indiqué qu'il y avait vraiment on avait atteint la limite des prix en 2022.
D'accord.
Néanmoins, on reste à mon avis à la limite assez haute des prix aujourd'hui, même avec la correction dans l'existant. Et donc, ça ne pourra pas revenir, à mon avis, personnellement, avec des hausses comme on a connu les années précédentes, les années du 2018-2021, où on a eu du 10, voire même du plus 15%.
17, je crois que c'était le maximum.
Exactement. Et aujourd'hui, les investisseurs, j'espère qu'ils reviendront, parce qu'on en a absolument besoin. Donc, la bonne nouvelle, c'est que sur des produits sans risque, ils ont moins de rémunération auprès des banques aujourd'hui. Donc, peut-être qu'ils se réintéressent un petit peu graduellement à l'investissement immobilier. Mais néanmoins, aujourd'hui, le rendement vu au prix de l'immobilier, on est à 3,5%. C'est un rendement qui est relativement faible hein, et ça ne suffit pas, en tout cas, à faire une opération classique avec du levier, du financement. Vous empruntez à 3,7, bah, vous faites le calcul, hein, en fait, ça ne marche pas. Hein, c'est pas ouais. Donc aujourd'hui, il faudrait que, pour que les investisseurs reviennent vraiment, que les rendements soient à 4,5 à peu près. Donc une augmentation importante des prix ne va pas du tout dans ce sens-là. Donc en fait, aujourd'hui, les prix sont maintenus par les propriétaires occupants qui veulent un toit sur leur tête, parce que le logement, ça reste un besoin primaire, ça reste un objectif de vie premier que vous avez, c'est d'être propriétaire de votre maison ou votre appartement et de vous dire « quand je serai à la retraite, j'aurai plus de loyer à payer ». Et ça va rester. Et c'est porté, le marché immobilier reste porté au Luxembourg par ses propriétaires occupants et ils sont largement assez nombreux, ces propriétaires occupants, par rapport à l'offre de logement.
Et c'est intéressant ce que dit Pierre, parce qu'en fait, ça met en lumière quelque chose qu'on n'avait peut-être pas assez mis en avant. pendant la crise. On parlait beaucoup des propriétaires occupants et le fait qu'ils avaient été pénalisés en termes de capacité d'achat et que du coup ça les avait exclus du marché temporairement parce que les taux étaient tellement élevés qu'emprunter devenait compliqué. Mais on n'a pas vraiment réfléchi à la conséquence qu'avait eu avant la flambée des prix sur les taux de rendement locatifs. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être négligé et qui est très important. C'est le fait que la flambée des prix qu'on a connue, ça n'a pas simplement exclu du coup après du marché une partie des propriétaires occupants, mais ça a aussi vraiment pesé sur la demande des investisseurs parce que les taux de rendement locatifs sont devenus beaucoup plus faibles qu'ils étaient en 2017 par exemple. Mmh. Et ce qui fait que là maintenant, ces investisseurs font face à, avec ces niveaux de prix et ces loyers qui ne peuvent pas non plus augmenter dans des proportions très importantes parce que les locataires ils sont contraints par leurs revenus directement. Et donc les taux de rendement locatifs bruts, ils restent assez limités. Et on ne voit pas vraiment de solution pour que les taux de rendement se récupèrent. Sauf à nouveau, encore une correction de prix. Clairement, je ne vois pas du tout les loyers augmenter suffisamment aujourd'hui pour avoir un effet majeur sur les rendements locatifs bruts.
Alors, je vois néanmoins quelques projets nouveaux qui viennent de sortir sur le marché, dans la VFA, où les prix sont un peu plus bas, qui permettent d'avoir un rendement qui est plus autour de 4-4,5%. Et je pense que ça devrait faire revenir les investisseurs. Mais il ne faut pas oublier, il y a des très bonnes choses pour les investisseurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a un effet fiscal qui est toujours existant. Hein, c'est l'amortissement accéléré, qui est toujours de 5%. Enfin, techniquement, c'est 4 plus 1%, mais ça fait 5%. Et vous avez le droit d'en profiter pour deux investissements locatifs dans votre vie. Et sincèrement, si vous avez les moyens, ça reste une très très belle opération, puisque nous, avec les outils qu'on a, que vous pouvez d'ailleurs voir sur notre site, une opération qui est bien montée, ça devrait vous donner un rendement entre 5 et 8% sur 10 ans en achetant du locatif. Alors, la vraie contrainte qu'il y a dans locatif aujourd'hui, à mon avis, c'est vraiment l'apport nécessaire. Là où avant, dans les années jusqu'à 2020, en 2021, en réalité, chaque personne qui avait un très gros salaire, et il y en a quand même pas mal ici, des gens au Luxembourg qui jouissent de salaires assez élevés, pouvait financer un investissement locatif pratiquement sans apport. Aujourd'hui, à Luxembourg, il faut 20% d'apport sur le prix du bien et payer tous les frais accessoires. En gros, c'est 25% du prix du bien qu'il faut amener cash. Et c'est lourd. Donc en fait, tous les jeunes investisseurs qui avant investissaient aisément grâce à leur banque qui leur prêtait la totalité du montant, ne sont plus là. Et quand vous voyez le prix d'un bien, parlons même d'une chambre en ville à Luxembourg, on est à 600 000 euros. Ça veut dire que sur la table, il faut arriver avec 150 000 de cash. C'est compliqué, même quand vous avez un gros salaire, d'économiser et d'avoir 150 000 euros. Et en plus, vous allez mettre toutes vos économies dans cette acquisition. Donc la contrainte de cet apport minimum pour l'investissement est terrible. Moi, je ne crois absolument pas personnellement à des alternatives de modèles pour financer.
Vous anticipez ma prochaine question.
Pour financer, en tout cas, désolé. pour faire qu'il y a de la construction. Le modèle VFA, il est tel qu'il est. Il existe dans tous les pays. C'est le modèle classique. Et moi, je ne crois pas qu'on va changer les choses de manière drastique. Mais par contre, si on aidait un peu les investisseurs il fallait qu'il y ait moins d'apports, ça serait beaucoup plus simple.
Donc, vous allez un petit peu dans le sens de ce que... Donc, je reviens à la question que j'allais vous poser. Vous allez un petit peu dans le sens de ce que M. Virion avait dit dans l'émission. Donc, il demandait plutôt des efforts du côté des banques, c'est-à-dire que ce soit en termes d'apports ou tout simplement, il a donc... évoquer la possibilité d'avoir un recours à un prêt à taux zéro comme c'est le cas en France par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Parce que c'est le cas en France, ça l'est pas au Luxembourg.
Mais là, c'est pas vraiment un problème de taux, hein, du coup.
Non, ça, c'est pas mais je veux dire,
pouvoir financer une partie de son logement à taux zéro, ça aide.
En fait, je rejoins tout à fait Pierre. Le gros problème qu'on a aujourd'hui sur l'investisseur, c'est cette fameuse nouvelle loi qui est sortie en 2021 avec les règles de LTV, primo-accédant 100%, secondo 90% et investisseur ou habitation secondaire 80%. En fait, il faut savoir qu'avant 2021, comme disait Pierre, en fait, si la personne avait un patrimoine déjà établi, on pouvait même faire des garanties croisées. Donc moi, ça m'est arrivé de financer des investissements locatifs à 110%. Donc c'est-à-dire que j'investis, je finançais, je prêtais le prix du bien plus les frais annexes parce que la personne avait déjà une résidence principale qui valait une certaine somme, qu'il avait déjà bien remboursée, et je faisais une garantie croisée. Et donc ça, les banques le permettaient. Avec cette nouvelle directive, en fait, maintenant, on ne peut plus le faire. En fait, il y a eu, pendant la période des aides fiscales, il y a eu la possibilité pour les investisseurs de se financer jusqu'à 95% sur le VFA, mais ça a été très peu communiqué et très peu utilisé. Et c'était selon les banques si elles l'acceptaient ou pas. Donc en fait,
ouais, vous avez un quota les banques. Hein,
ouais,
c'était très limité.
Mais aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que pour relancer le VFA, il faut justement dire, bah voilà, vous êtes investisseur, vous investissez dans le VFA, et ben vous vous permet de financer 100%. 110%, peu, enfin, ou 100%. Mais en tout cas, si vous avez la capacité financière de le faire, pour le VFA, pour pouvoir construire de logements, pour pouvoir... Parce qu'il y a des gens, ils ne pourront jamais acheter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des tranches de revenus aujourd'hui, avec les prix au mètre carré à Luxembourg, avec les revenus qui sont exigés, ils ne pourront pas acheter dans du neuf. Donc, autant les loger, autant qu'ils louent, mais autant que des gens puissent investir... et de permettre à des gens de financer des studios, des F1, des F2, des F3, peu importe, pour des familles, et dans le neuf, avec du triple A, bah, ça peut être très intéressant. Mais ça, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils dérogent à leur loi et qu'ils fassent un assouplissement de la loi. Et même pour vous dire, aujourd'hui, dans les directives de la CSSF, il y a des règles qui sont assez restrictives sur les calculs de ratio d'endettement avec justement, je parlais des taux stressés, ils avaient permis en 2024 de réduire le plus 2 à plus 1. Donc déjà, un investisseur aujourd'hui, il ne va pas se fixer sur 25 ans. Aujourd'hui, il va plutôt partir sur du variable. Donc on stresse sa mensualité sur plus 2. Autant, c'est plus représentatif de la volatilité du marché. Donc à un moment donné, ils avaient permis de descendre à plus 1. Et ça, c'est quand même déjà beaucoup plus facile pour les gens de pouvoir emprunter, en fait. Donc moi, je pense qu'il faut faire pour relancer vraiment le VFA, et surtout les gens sont intéressés, et comme d'investir dans des biens avec des très bonnes notes énergétiques, et je pense que ça peut être, c'est aussi une mission un peu sociale, hein. Il n'y a pas que l'investissement, mais vous logez des gens, vous investissez, etc. dans le pays. Donc je pense que ça permettrait vraiment de pouvoir booster le neuf, en fait.
Mais c'est plus qu'une mission sociale, c'est une mission pour le bien-être de la continuité du pays, hein. Parce que quand on parle de réforme de pension, etc., c'est juste parce qu'il n'y a pas assez d'actifs pour ou il n'y a pas assez d'augmentation de croissance économique. Donc il faut bien qu'on ait beaucoup de gens qui arrivent. Si on n'est pas capable de les loger, ça ne marchera pas. Voilà. Moi, je reviens sur ce que dit Yann. Je pense qu'en effet, permettre aux investisseurs d'utiliser des fonds qu'ils ont par ailleurs. Aujourd'hui, les gens qui ont de l'épargne, souvent, bah, ont investi via une banque. Ils peuvent avoir aussi des produits financiers. Ils peuvent avoir, en effet, déjà remboursé leur résidence principale à la moitié de sa valeur. Et je pense qu'on devrait quand même pouvoir prendre ces éléments, ces actifs en garantie pour permettre d'avoir un financement à 100%. Et ça, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. C'est quelque chose qu'on connaît, qui a été fait dans le passé. Et je pense que là, vous retrouverez beaucoup d'investisseurs et je suis sûr que je pourrais moi revendre ou aller comme on faisait chez Nexia, aller voir des partenaires de cabinets d'avocats, de cabinets d'audit, des médecins à Luxembourg qui ont la capacité mensuelle de rembourser des sommes relativement importantes, mais qui n'ont pas encore, qui n'ont pas une épargne qui est encore établie. Et il faut utiliser ces gens-là si on veut utiliser, et ces gens-là seraient contents d'utiliser l'amortissement et accélérer, et au moins de faire deux investissements locatifs.
Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais je mettrai deux bémols. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier pourquoi cette loi, ou cette directive, en l'occurrence, a été passée en 2021. C'est parce qu'on était dans une période d'emballement des prix, avec une très forte poussée inflationniste liée notamment à l'afflux des investisseurs locatifs sur le marché, qui était poussée notamment par les anticipations de plus-value, qui étaient considérables quand on avait, comme vous disiez tout à l'heure, des taux de croissance de 17% par an. Évidemment, les investisseurs, ils voyaient ça et ils avaient une envie d'investir qui était très forte. Donc oui, limiter à ce moment-là la possibilité pour ces investisseurs d'aller de manière très agressive sur le marché, ça avait du sens. Et je pense que si demain la demande repart complètement, cette directive, elle retrouve son sens. Je trouve que c'est normal, quelque part, d'avoir des garde-fous pour éviter cette emballée des prix des logements qui a été notre principale source d'inquiétude pendant pas mal d'années. Donc ça, c'est le premier point. Et moi, je pense que la demande, elle est de nouveau là. Mais peut-être que oui, on peut aider d'une manière ou d'une autre les investisseurs en faisant des choix qui sont des choix peut-être de court terme, mais pas nécessairement un retour à un financement à 100% qui soit pérennisé. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, je dirais, cette question, elle est fondamentale. Les investisseurs doivent revenir pour que l'on relance l'offre de logement. Mais je crois que, du coup, encore plus rapidement, il faudrait se poser la question de comment on remet en place une politique de l'offre directement. Et pas subventionner la demande pour qu'elle revienne alimenter l'offre. Mais qu'on reparte sur une idée qu'aujourd'hui, on doit se relancer. La crise n'est pas finie, mais en tout cas, la demande est de retour. Il faut qu'à nouveau, on se positionne sur la politique de l'offre, trouver des solutions pour augmenter l'offre de logement, revenir à ce dont on parle depuis le début de la bulle immo, et ça fait quelques années qu'on fait des bulles immo, c'est l'idée qu'il faut mobiliser des terrains aussi pour faire baisser leur prix des terrains et du coup faire baisser le prix de la VFA. Et ça, je pense que c'est la clé. Il faut qu'on retrouve des marges pour à nouveau augmenter l'offre avec des prix plus compétitifs. Et ça, ça passe par le foncier, quoi qu'il arrive.
Voilà. Et ça, c'est des réformes, il faut le rappeler, ça va prendre plusieurs années. Si elle passe, ça va prendre plusieurs années pour qu'il y ait vraiment un effet sur les prix. Donc ça, faut quand même le oui. rappeler. Et je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Justement, donc pour boucler cet épisode de la Bulle Immo, je voulais quand même vous poser une question assez ouverte. Pierre, une petite minute. Parce que ça va aller dans le sens de ce que vous voulez dire de toute façon. Là,
dans les pensées.
Là, je le connais un petit peu maintenant. Ah.
C'est vrai qu'on se pratique tous depuis un certain temps.
Hein. Voilà. Donc, on a un marché actuellement de l'existant qui continue à tourner. Mais bon, ça reste quand même des propriétés qui passent d'une main à l'autre. Un pays qui construit peu, avec beaucoup d'arrivées. Des taux qui vont pas forcément, en tout cas les prévisions ne semblent pas dire que ça va baisser à nouveau de sitôt.
Non, ça risque de rester encore stable.
Voilà. Les salaires vont pas bouger non plus des masses dans les mois à venir. Du coup, il va où ce marché de l'immobilier luxembourgeois? Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de boule de cristal, mais moi comme ça, quand je prends tous ces constats, j'ai pas vraiment une vision très optimiste de ce qui est à venir.
Bah je pense que les chiffres parlent. Hein. Sur les trois dernières années, disons qu'on va faire peut-être 1000 ventes en VFA cette année, et ce serait déjà un beau chiffre. Ça voudrait dire qu'en trois ans, on aura moins vendu de neuf qu'en une année normale. Mmh. Et par rapport au nombre de projets néanmoins qui sont existants et de très grands projets qui existent à Luxembourg, je pense qu'en effet, ce qu'on a pu voir au niveau de la promotion et la construction, enfin du problème qu'a le secteur, va s'amplifier. Mmh. Je crois que si les choses ne bougent pas, que ce soit au niveau des prix de vente de VFA, de la facilité pour les investisseurs d'emprunter, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un reset qui se passe. Et ce reset, il va prendre un peu de temps, mais on va avoir une situation de statu quo et de nouveaux promoteurs vont arriver, vont racheter des terrains, mais à des prix très différents de ce qu'ils ont été achetés dans les années 2018 à 2022, ça c'est clair. Mmh.
Nous avons publié une note sur les évolutions des prix des terrains à l'occasion de la Semaine nationale du logement, où on montrait effectivement que les prix des terrains avaient baissé dans les mêmes proportions que les prix des maisons, c'est-à-dire de l'ordre de 20% entre 2022 et 2024. Donc vraiment une baisse assez nette, une forte réduction de l'activité évidemment sur la vente de terrains. En 2023, un peu moins en 2024, mais où on a retrouvé un peu d'activité. Mais ça, c'est vraiment à mon avis un élément important. Hein. Mmh.
Mais il faut garder, je veux pas être défaitiste, c'est pas ça, mais et il faut continuer. Je pense qu'il reste, il y a sur la place luxembourgeoise des promoteurs qui, même pendant cette crise, sont des gens très sérieux, qui ont les reins très solides. Vous avez des promoteurs constructeurs notamment pour qui la promotion n'est pas leur seule activité et à qui on peut, je crois, donner entière confiance sur le fait que le logement, même si il est construit sous 28 mois, sera bien construit. En parallèle, vous avez des groupes, des promoteurs qui se sont développés très rapidement, qui avaient peu de réserves foncières, ont acheté très cher leur terrain et qui sont financés par des particuliers derrière, souvent fortunés, qui ont mis des tickets à droite à gauche. Bah, là, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus compliqué. À un moment donné, il y a une fin. Quand on est entrepreneur, promoteur, bah, on joue, le but c'est d'avoir une activité lucrative, on a essayé de la rendre encore plus lucrative en utilisant des moyens financiers qui permettaient de se développer plus vite. Quand il y a un retournement de marché, malheureusement, bah, il y a des fois, c'est la vie, ça ne marche plus, et ça fait partie de la vie des business. Hein, donc,
Yann, Julien, le marché, il va où à vos yeux ?
Moi, je pense que le marché est compliqué, effectivement, tout de suite. Mais c'est le moment, je pense, de vraiment penser à cette politique de l'offre. Retrouver des solutions, ou trouver des solutions, on en a beaucoup parlé, pour à nouveau alimenter le marché et faire baisser ces prix des terrains, de manière à ce qu'on ait à nouveau des projets qui soient en construction et qui correspondent à des prix corrects et on va dire en adéquation avec les prix de l'ancien actuellement. Pour moi, il y avait deux problèmes, ou il y a toujours deux problèmes sur la VFA. C'est un problème de confiance dans les acteurs et le marché. Ça, c'est le premier problème dont on a finalement beaucoup parlé ces derniers mois. Et comme le disait Pierre, ça dépend des promoteurs, évidemment, cette question de la confiance dans les acteurs. Il y a des promoteurs dans lesquels on a toute confiance pour qu'ils puissent mener à bien les projets. Et du coup, le problème, ce sera le deuxième, c'est le problème de prix. Mais on a aussi des promoteurs qui, effectivement, avaient fait des paris risqués, avaient acheté du terrain cher et auront du mal peut-être à mettre à des bons prix ces projets. Et c'est pour ça qu'il faut déjà se projeter sur l'après. Hein. En fait, c'est les terrains au prix actuel qu'on va pouvoir mettre en construction et sur lesquels on va pouvoir trouver des prix, des prix finaux de transaction qui seront plus en adéquation peut-être avec le marché. Et du coup, le deuxième problème qu'on voyait sur le marché de la VFA, c'était le problème de prix. Et ça, c'est vraiment le gros problème qu'il faut qu'on solutionne pour retrouver une demande sur ce marché qui soit là. Hein. Parce qu'on a besoin de ces logements, on l'a dit, c'est un secteur important, tant en termes d'emploi qu'en termes de valeur ajoutée pour l'économie et de capacité à loger la démographie qui est vraiment un problème clé. Hein. Donc oui, on a un vrai challenge, mais à mon avis, il faut à nouveau repenser aux solutions pour la question quantitative.
Yann ?
Moi, je vais finir un petit peu plus positivement, mais je pense que je suis dans la même ligne que Pierre et Julien. Mais après, c'est vrai que le VFA reste quand même très problématique aujourd'hui. Je pense qu'il y a des pistes qu'on a évoquées justement pour le relancer. Après, ce qui me fait, ce qui me rend positif et optimiste pour l'avenir, c'est que j'ai pu et comme Pierre a pu le vivre aussi en 2023, on avait vraiment un marché qui était à l'arrêt avec des gens qui hésitaient vraiment à acheter, où on avait vraiment un décalage entre les capacités d'emprunt et les prix des biens. Donc déjà ça s'est vraiment corrigé en 2024-2025. Donc aujourd'hui, on voit que les gens, les potentiels acquéreurs sont vraiment reviennent à la transaction, etc. Ce qu'on a pu voir par les chiffres avec une année potentiellement record sur l'existant. Donc j'espère qu'on va rester sur ce train-là, qu'on notre gouvernement va nous permettre en fait de pouvoir pousser encore dans le VFA et pour revenir avec des projets intéressants dans les prochaines années et d'avoir une activité puisqu'en fait ça reste pas que de la transaction mais c'est aussi toute l'économie qui va derrière. Je pense que
l'attractivité du pays, hein, tout simplement,
tout à fait, qu'on puisse relancer vraiment le VFA dans les prochaines années.
Très bien. Julien, Pierre, Yann, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir en studio. À nos auditeurs, je vous retrouve très vite pour un épisode consacré au co-living, un mode de vie qui s'installe progressivement au Luxembourg. À bientôt et merci.
À bientôt, merci.
À bientôt, merci. À bientôt.